BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrier.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. On va parler évidemment toujours un peu des dossiers qui fâchent. On va parler du Brexit, on en parlera avec Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne. On parlera aussi des retraites, est-ce qu'elle est décalée ou pas? Vous savez, c'est un peu ma marotte. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on peut se poser la question avec la très forte mobilisation ce week-end, la mobilisation surprise de la SNCF. On en parlera avec Raymond Soubi, patron d'Alixio et Tadeo. Bonjour, merci d'être avec nous Raymond Soubi. On le rappelle toujours, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Vous nous direz si vous avez la martingale un peu pour sortir de cette situation et pas se trouver dans un mois de décembre aussi socialement difficile que l'année dernière. Et puis je recevrai Eric Boustouler, c'est l'ancien patron de Microsoft Europe. Il est aujourd'hui directeur général de Solocal, l'expert en solutions digitales pour les entreprises. Ça bouge, ça va mieux, il viendra nous expliquer. Pour l'instant, le journal de l'écho avec Marie Vallionne. Bonjour Marie.
Bonjour Edwige et bonjour à tous. Un énième rebondissement dans le feuilleton du Brexit. Le Premier ministre britannique assure que le Royaume-Uni quittera bien l'Union européenne le 31 octobre. Pourtant, samedi, un amendement du Parlement l'a contraint à demander un nouveau report. Delphine Liu, vous êtes à Londres pour BFM Business. Delphine, Boris Johnson va-t-il parvenir à faire adopter son nouvel accord aujourd'hui, celui qu'il avait négocié la semaine dernière ?
Ce qui est sûr, c'est que le Premier ministre britannique veut lui un oui ou un non clair dès aujourd'hui, eh bien pas sûr qu'il l'obtienne. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, à 16h30, eh bien le président de la Chambre des communes va décider donc s'il soumet au vote ou pas donc ce nouvel accord au vote des députés. Peu de chance que John Bercow eh bien le mette à l'agenda aujourd'hui puisque les députés samedi ont clairement dit nous voulons d'abord adopter la législation nécessaire à l'application de l'accord de retrait pour éviter un no deal par accident. Et donc si le Speaker of the House refuse de mettre le vote à l'agenda aujourd'hui pour respecter la décision des députés, eh bien le gouvernement pourrait donc soumettre cette fameuse législation aujourd'hui donc pour pouvoir implanter cet accord de retrait dans le droit britannique. Le vote sur l'accord lui-même pourrait, lui, intervenir du coup demain en deuxième lecture et non pas en première.
Delphine, est-ce que cet accord peut obtenir une majorité ?
Oui, selon en tout cas le ministre des Affaires étrangères qui s'exprimait hier, le compte y est. On sait que l'opposition est contre, les travaillistes, les libéraux démocrates, les écossais, etc. Mais le gouvernement britannique aurait réussi à rallier donc certaines voix de députés indépendants et puis surtout les voix de certains travaillistes rebelles, ceux notamment qui ont été élus dans des circonscriptions pro-Brexit. L'opposition profitera d'ailleurs donc pour déposer des amendements en vue d'un deuxième référendum, en vue aussi eh bien, de proposer une union douanière avec l'Union européenne. Voilà plein de rebondissements et de suspense pour les deux jours à venir.
Merci Delphine. Delphine Liu, donc en direct de Londres avec Éline Dany. 1 million d'euros pour les voyageurs qui ont subi des dommages exceptionnels. C'est la promesse du président de la SNCF, Guillaume Pepy, suite aux perturbations ce week-end. Les voyageurs dont le trajet a été perturbé vont être remboursés à 100% grâce à la création d'un fonds d'indemnisation. Désormais, le trafic a repris quasiment à la normale sur le réseau. Les perturbations restent limitées et concernent les intercités et TER. Les salariés de General Electric approuve un plan pour sauver les 307 emplois sur les 792 menacés. La proposition a été approuvée à une très large majorité lors d'un vote à main levée. Un plan d'économie annuel de 12 millions d'euros en contrepartie de la réduction du nombre d'emplois supprimés. Jamais le tabac n'aura rapporté autant d'argent à l'État. BFM Business a regardé de plus près les comptes de la Sécurité sociale. Le gouvernement va gagner 2 milliards d'euros de taxes supplémentaires sur la période 2018-2020. Des taxes qui sont la conséquence de l'augmentation des prix des paquets des cigarettes. Au total, l'ensemble des recettes fiscales liées au tabac, rapportera près de 16 milliards d'euros aux caisses de l'État fin 2020. Mathieu Pigasse quitte la banque d'affaires Lazard. L'homme d'affaires est actionnaire dans les les médias, a remis sa démission hier. Il explique dans une lettre aux salariés vouloir s'engager dans un projet entrepreneurial. La crise des OPAC prend une tournure judiciaire aux États-Unis. Le procès s'ouvre aujourd'hui à Cleveland. Plusieurs géants pharmaceutiques sont sur le banc des prévenus. 2300 plaignants les accusent de n'avoir pas suffisamment alerté sur les dangers de leurs médicaments antidouleurs. Des milliers de dollars sont en jeu. Total accélère dans les carburants marins en Chine. Le groupe signe un accord avec la compagnie publique Jinyang Energy Group, alors qu'entreprise sera dédiée à l'approvisionnement des bateaux et elle sera établie dans la région de Zhoushan, le plus important hub de fret maritime du monde en termes de tonnage. BFM Business, il est 12h05, le CAC 40 en hausse de 0,15% à 5644 points. L'euro-dollar, 1 euro s'échange 1,11 $.
Merci Marie Valane, qu'on retrouve bien sûr à 12h30 dans un instant. La question du jour avec Raymond Soubi, comment désamorcer la grogne sociale. Là tout de suite.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Raymond Soubi, merci d'être avec nous. On va rappeler que vous êtes président d'Alexio et Tadeo et puis donc ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, même si ça commence à dater. Mais enfin, votre métier, justement, c'est désamorcer la grogne sociale. D'abord, sur ce mouvement surprise de la SNCF, avec des conséquences quand même très désagréables pour les passagers. Est-ce que sur le plan juridique, je ne sais pas si c'est un droit de retrait, c'est une grève surprise Je sais pas, comment est-ce que vous analysez ce mouvement ?
Je crois que le droit de retrait habille le mouvement. Mmh. En fait, le mouvement, c'est une grève surprise que personne n'avait vu venir, y compris pas les syndicats d'ailleurs, y compris pas les syndicats, qui ont ensuite essayé de récupérer le mouvement. Donc ça a été un mouvement spontané, très rapide, qui s'est étendu à travers toute la France sur un sujet grave qui était un accident, mais qui n'était pas quand même...
Qui n'était pas grave, enfin...
Qui n'était pas nationalement d'une importance considérable.
Grâce à l'intervention
ce qui
quand même du conducteur,
en clair, un,
pas été grave.
Que le corps social de la SNCF est extrêmement inflammable et sensible à l'heure actuelle, et pour des raisons qui ne tiennent pas directement à cet accident. Et deuxièmement, que les syndicats qu'aujourd'hui on critique beaucoup en disant ils ont lancé un mouvement, les inconscients, en fait, les syndicats, ils sont comme tout le monde. Ils ont découvert le mouvement au moment où il éclatait, et ils ont essayé de courir après lui, et pour dire la vérité, un peu de l'arrêter, pour éviter qu'il ne les dépasse.
Ah oui, c'est l'analyse que vous faites. Ils ont cherché à l'arrêter. C'est pas évident, vu l'extérieur. Vous les connaissez tous très bien. Ils ont essayé d'arrêter, de freiner. Ce matin, je recevais Gilles Legendre, le président du groupe à l'Assemblée nationale, du groupe La République En Marche. Il disait, en fait, il faut pas confondre. Il y a vraiment deux sujets. Il y a la réforme, en fait, ferroviaire, qui rentre en application au 1er janvier 2020, avec la réforme du statut, et ce qui s'ensuit pour les réformes. Et puis, la réforme des retraites. Là, il y a une volonté des syndicats, un peu, de faire l'amalgame en vue de cette journée du 5 décembre. Ce que vous dites va un peu dans le sens de Gilles Legendre, c'est-à-dire c'est un climat très éruptif à la SNCF à cause de cette réforme du statut.
Oui, Gilles Legendre a raison. Et il y a une situation très éruptive en raison du statut. Il faut comprendre de quoi l'on parle. Il y a un an a été votée une loi abrogeant le statut pour les nouveaux entrants. Deux, qui prévoyait qu'on devait négocier de nouvelles règles pour les nouveaux entrants. Trois, qui prévoit de nouvelles règles sur les classifications et la mobilité. En clair, la SNCF s'engage dans ce qu'elle appelle un pacte social qui consiste à la rendre compétitive au moment où elle va rentrer en concurrence. La concurrence, la commence à la fin de l'année. Et ce sont des bouleversements trop profonds. La SNCF s'aperçoit qu'il y a des sureffectifs dans certains services, elle s'aperçoit qu'il y a des problèmes de compétences des gens, de mobilité, de classification. Donc il y a un immense chantier social. En réalité, la loi de l'année dernière a ouvert cette réforme, mais n'a rien traité au fond. Et c'est maintenant que ça doit être traité au fond, et ce sont des sujets très difficile.
Oui, enfin,
dans n'importe quelle entreprise.
Il n'y a plus 3 mois, je veux dire, donc c'est presque un peu tard quand même. Là, il y a une petite défaillance de la part du management de la SNCF.
La SNCF a pris beaucoup de temps parce que ce sont des sujets très compliqués. Mais il faut savoir, on parle de la SNCF, mais ces sujets-là existeraient dans n'importe quel grand groupe. Il y aurait aussi, peut-être moins, mais il y aurait aussi une situation éruptive. Donc c'est la première raison de l'énervement au sens propre du mot des agents de la SNCF et s'ajoute naturellement...
Donc, mal géré, Raymond Zoubi, mal géré quand même.
Très longue et très difficile à gérer, parce que c'est une transition vers une nouvelle SNCF plus compétitive, qui va prendre des années, qui fait qu'on change les structures, les organisations, les emplois, la compétitivité, c'est un changement formidable.
Maintenant, il y a le 5 décembre, hein, 5 décembre, on sent bien qu'il y a la volonté des syndicats, notamment de la CGT, mais pas seulement, de l'UNSA, de la RATP, de faire que la grogne sociale monte, et qu'il y a une manifestation d'ampleur contre la réforme des retraites. Et comme ça, ça ferait un petit rappel par rapport au 5 décembre 1995. Alors, premier point, est-ce que la réponse d'Edouard Philippe, c'est-à-dire judiciarisation, on envoie, et dirait s'ils ont reçu les salariés, on envoie des injonctions judiciaires, est-ce que c'est la bonne réponse ou pas ?
La position du gouvernement, il voit bien que le mouvement est en décroissance, il a beaucoup diminué ce matin. Oui. Donc le gouvernement prend une position dure pour dire, vous voyez, j'ai pris une position dure, donc ils se sont inclinés, ça a marché. C'est plus une démarche politique, si vous me permettez, qu'une démarche sociale. Mm-hmm. Bon. Mais ça ne règle rien au fond des sujets que nous avons abordés il y a un instant, comme ça ne règle rien aux difficultés soulevées par la réforme des retraites. Oui. Le difficile est devant nous. Et comme vous l'avez rappelé, il y a un mouvement, le 5 décembre, qui est parti de la RATP,
oui,
qui, lui, est spécifiquement RATP, qui est un mouvement de grève, je rappelle, illimité. Dans une entreprise dans laquelle, le 13 septembre dernier, il y a eu un coup de semonce de 24 heures, avec un taux de grévistes le plus fort depuis 1995.
Oui, oui,
donc, il y a un danger formidable à la RATP. Et à la SNCF, il y a le sujet dont nous avons parlé, propre à la SNCF, auquel va naturellement se rajouter le sujet des retraites. Donc, tout ça fait un amalgame extrêmement inquiétant, surtout que nous le savons, sur les retraites, il y a bien d'autres corporations, entre la SNCF et la RATP, qui sont concernées et qui sont inquiètes.
Oui. On va revenir sur la réforme des retraites. Juste, on désamorce comment, à votre avis ? Est-ce que là, on prend son temps autant sur la réforme des retraites, justement, on dit, on verra les spécificités, qu'est-ce qu'on fait ?
Moi, je crois qu'on désamorce d'abord le pacte social SNCF, il faut le négocier.
Mmh. Oui, mais enfin, là,
et plus encore que le négocier, il faut embarquer les salariés de la SNCF vers la nouvelle SNCF de demain, qui ne sera pas la SNCF d'aujourd'hui, c'est toujours un phénomène extrêmement difficile, qui ne va pas se régler en 3 mois ni en 6 mois. Qui va prendre des années. Et quant à la réforme des retraites, il est clair que le gouvernement a ouvert une voie à laquelle il se refusait encore il y a 15 jours, qui est de sortir des générations actives de la réforme des retraites jusqu'à éventuellement envisager que la retraite ne s'appliquerait que pour les nouveaux entrants, ce qui n'était pas du tout le projet initial.
Oui. Non, pas du tout. Est-ce que la réforme, elle est en train... Là encore, Gilles Lejeune disait ce matin, à la limite, on va construire là, cette fameuse maison commune avec le cadre, mais... À l'intérieur, il y a tout à négocier encore. Donc, on aura une sorte de loi cadre qui, elle, va bien être votée. Mais en revanche, à l'intérieur, il y aura tout à faire.
Oui, la loi cadre qui va être votée juste avant l'été prévoira, un, les objectifs finaux dans 30 ans. Donc, c'est pas pour demain matin. Deuxièmement, ne l'oublions pas, devra définir les mesures financières pour rétablir les comptes des régimes d'ici 2025, parce qu'il y a un sujet, le corps, le Conseil d'orientation des retraites est actuellement consulté, et puis essayer de dire quelques avancées qui auront été arrêtées. Mais sur la plupart des régimes de retraite, le gouvernement a retenu une voie qu'il va y avoir des négociations avec les 42 régimes, avec des parcours pour rejoindre la maison commune réforme finale. Et tout ceci ne sera naturellement pas terminé à l'été.
Oui, évidemment, on le voit bien, on prend son temps. Sur G.G. Belfort, je crois que vous connaissez bien le dossier, Raymond Zoubi, les salariés ont finalement approuvé le plan qui sauve 307 emplois sur les 792 qui sont menacés. La responsabilité des uns et des autres, vous la mettez où ?
Oh ben, la responsabilité...
De l'État, en l'occurrence.
La responsabilité, là, est responsable, si j'ose dire, puisqu'elle arrive à un accord qui ne supprime pas l'opération de suppression d'emplois, mais qui la réduit. Voilà. Donc je crois que cela... Alors, il faut savoir que le secteur se porte mal et que manifestement, l'entreprise en question ne se porte pas très bien.
Est-ce que l'État est un mauvais... Demain, je recevrai Martin Vial, qui est le patron de l'Agence de participation de l'État, mais est-ce que l'État, c'est un mauvais actionnaire, un mauvais dealer ? En l'occurrence, là, c'est la vente d'Alstom à GE. Est-ce que c'est un mauvais dealer ?
Rappelons qu'il y avait deux possibilités. Il y avait l'achat d'Alstom par GE Et il y avait la solution qui était proposée par les Allemands de Siemens, ouais, qui était de fusionner les activités ferroviaires d'Alstom et de Siemens sous pavillon français en échange de l'acquisition par Siemens de l'énergie dont nous parlons maintenant. Et comme vous le savez, le ministre de l'Industrie de l'époque, qui aujourd'hui s'occupe de miel et de refus de miel,
Arnaud Montebourg,
oui, Arnaud Montebourg, était pour la position de Siemens, ouais, et finalement il a été tranché sous l'influence du ministre de l'économie de l'époque que c'était GE qui allait récupérer cette activité qui, ouais, finalement s'est avérée comme n'allant pas bien. Ouais. Et donc Siemens, n'ayant pas réussi l'opération, a fait une bonne opération, et GE, ayant fait l'opération, n'a pas fait une bonne opération.
Et donc, vous en concluez que l'État est un mauvais...
Je pense que c'était très difficile de savoir quelle serait l'évolution de l'entreprise. L'État n'est pas le meilleur actionnaire, mais les sujets qu'il a à traiter sont encore difficiles. Prenez l'exemple de Renault dans un autre secteur, c'est un vrai sujet pour l'État actionnaire.
Eh bien, on en reparlera demain matin, je vous le disais, pour Martin Vial. Merci beaucoup Raymond Soubi d'avoir été avec nous. Dans un instant, ça sera Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne. Alors là, autre dossier, alors vraiment, la confusion la plus totale, c'est le Brexit. À tout de suite.
BFM Business, le club de l'heure H.
Club de l'arrache avec Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent, merci d'être là. Beaucoup de questions à voir avec vous. Je voudrais qu'on parle du couple franco-allemand qui, lui aussi, ben, on sent bien que ça branle un petit peu dans le manche, c'est le cas de le dire, parce qu'au sommet franco-allemand, ils ont parlé beaucoup de défense. Mais enfin bon, que s'est-il passé? Et puis des accords aussi sur le Brexit. Alors le Brexit, on est dans la confusion la plus totale. Est-ce qu'il n'est pas temps que ça s'arrête? Est-ce que de ce point de vue-là, Macron a raison quand il dit pas de report?
Ouais, je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Ça fait maintenant 3 ans. Qu'on est dans cette affaire ou un peu plus même, 3 ans presque et demi, et pour la population britannique, pour les populations européennes, pour ensuite les agents économiques, les entreprises, mm-hmm, les investisseurs, il y a une situation d'incertitude qui, ouais, qui n'est plus supportable. Et on voit bien une chose, c'est que si ce qui se joue, et ça s'est vu samedi à Westminster au Parlement britannique, c'est pas le Brexit, c'est quel sort on fait à Boris Johnson pour l'emmener aux élections dans la situation la plus mauvaise possible. Ça n'a rien à voir avec nous, Européens. Ça n'a rien à voir avec l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union Européenne. La quasi-totalité, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, la quasi-totalité des membres de l'actuel gouvernement ne connaissent pas l'Union Européenne, n'en ont rien à faire. Les gens qui en tirent Johnson, pour une grande partie d'entre eux aujourd'hui, n'ont qu'un horizon, c'est celui de se dire que ça se terminera par un gentleman agreement. Il faut voir les conditions non professionnelles dans lesquelles il a dû demander hier soir la prolongation, enfin en tout cas,
sur les trois lettres
de la discussion. C'est aberrant. On dirait Trump écrivant à Erdogan. Oui, il y a plus de rationalité derrière tout ça. Et il faut voir à quel point le débat politique britannique n'est absolument pas centré sur les questions européennes, mais sur le fait de savoir comment les différentes forces politiques vont aller aux prochaines élections générales. Donc on se moque de nous. Mm-hmm. Patiemment. Mais on se moque de nous parce que le sujet européen n'est qu'annexe. Alors qu'on a des enjeux. On a des enjeux qui sont immenses, qu'on a encore vu au Conseil européen la semaine dernière, et sur lesquels pour l'instant on n'avance plus ou on n'avance pas.
Mais est-ce que la France est mise en faute en proposant Sylvie Goulard avec le développement que vous connaissez et qu'on ne va pas s'étendre là-dessus? La seule chose, c'est qu'il y a un énorme poste qui a été négocié et pour l'instant, il n'y a personne pour remplir le poste.
Il n'y a personne.
Il y a Michel Barnier.
J'ai une admiration très forte pour Sylvie Goulard et je tiens à le redire parce que c'est très facile, comme ça a été fait beaucoup dans la presse française, expliquer qu'il était évident et couru d'avance qu'elle serait balayée par le Parlement européen. Non, elle est tombée sur un coup politique.
Elle
est victime de l'inexpérience de la présidente de la Commission qui a donné des garanties au président de la République qu'elle n'a pas su tenir. Donc voilà. Maintenant, il y a des Français qui sont capables, comme Michel Barnier, de prendre le job.
Oui, mais à mon avis, il n'en veut pas. Il a déjà été marché. Je sais bien que le job, il est surdimensionné par rapport à ce que lui a exercé. Mais il a déjà été commissaire au marché intérieur. Et en plus, il demandait à être président de la Commission européenne.
Bien sûr,
enfin, il le demandait sans le demander.
De fait, il ne l'est pas.
Et Macron ne l'a pas soutenu.
De fait, il ne l'est pas. Et je pense que Michel Barnier est un homme suffisamment sage pour savoir que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'un Français soit président de la Commission européenne.
C'est un homme de devoir, donc voilà. À la limite,
une fois qu'on a dit ça, on en revient à des questions qui touchent à la raison, c'est le sens de la mission qu'il vient d'avoir sur le Brexit. Ce serait quand même dommage que l'expérience sur laquelle il est capable de capitaliser ne bénéficie pas au pays. Et je le dis en pensant à Michel Barnier, comme je le dis en pensant au président de la République, parce qu'on ne peut pas refuser un job qui ne vous a pas été proposé. Donc j'ignore ce que sont les discussions ou pas entre les deux hommes, mais c'est pour moi.
Mais parce qu'il trouve personne d'autre, non ?
La solution d'évidence, non. Je pense que c'est la solution d'évidence. C'est des jobs où il faut mettre les plus qualifiés. Or, d'évidence, aujourd'hui, si vous regardez la scène française, la scène politique française des Bruxelles d'un peu loin, le français le plus qualifié, y compris parce qu'il est reconnu pour son sérieux à Bruxelles, c'est Michel Barnier. Donc, il ne faut pas, à mon avis, chercher midi à 14h dans cette histoire.
Il faut... Donc, vous, vous êtes pour la solution Barnier, et il m'a quitté à lui forcer un peu la main, parce que lui, il dit, j'ai encore un an à négocier, enfin, ça, deux ans à négocier.
Ça, c'est entre le président de la République et Michel Barnier, si jamais des discussions sont ouvertes, ça, j'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, j'espère qu'elles le sont et qu'elles le seront.
Ce qui est plus inquiétant, enfin c'est inquiétant, ça c'est, une, enfin c'est pas une péripétie, mais c'est en tous les cas là, c'est qu'on voit que le couple franco-allemand là, il est complètement à l'arrêt, enfin il s'enraye, il y a plus de couple franco-allemand. Alors tout n'est pas du côté de la faute du côté des Français, il y a aussi du côté allemand où évidemment il y a une situation politique extrêmement instable et on en perçoit les échos.
Écoutez, on ne se comprend plus.
Oui.
On ne se comprend plus parce que notre rapport au monde n'est pas le même. Il est très économique en Allemagne, il est très politique en France. Ça, c'est l'histoire des deux pays. On ne se comprend plus parce que l'Allemagne est dans une grande période de déstabilisation. Elle a perdu ses repères avec le Brexit, avec Trump, avec Erdogan, avec l'Europe centrale et orientale qui lui échappe. Et la France a le sentiment d'être dans une situation, ou en tout cas dans une configuration qui serait meilleure. Ce qui n'est pas si vrai du point de vue de sa faiblesse économique. Et on n'arrive pas à faire converger les deux leaders, tout simplement parce que nous, on a un jeune président qui vient d'arriver et qui se voit un horizon, j'imagine, qui enjambe le quinquennat actuel, et qu'on a de l'autre côté une chancelière qui est en bout de course. Et en bout de course, sans savoir qui va la remplacer.
Oui, absolument, il y a ça aussi qui est important.
Et donc, à la fois, structurellement, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus, et par ailleurs, on a deux dirigeants qui n'ont aucun intérêt véritablement à se parler. Ce qui est la pire des configurations, parce qu'il n'y a à la fois pas de cadre de discussion et il n'y a personne pour discuter. Et donc, moi j'estime, et c'est ce que essaye de faire Montaigne, l'Institut Montaigne à sa modeste, j'allais dire, mesure, hein, de prendre le relais de cette discussion. On l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, avec un groupe français de très haut niveau vis-à-vis d'un groupe franco-allemand. Subitement, quand vous discutez projet, prenez ce que fait Nicolas Dufour via la BPI quand il veut créer un fonds pour, j'allais dire, faciliter l'investissement croisé dans les deux pays. Mais quand vous reparlez de projet, il y a des choses. On vient de publier un texte d'Éric Chanet, bien connu de cette antenne, sur le site de l'Institut Montaigne, sur notre blog, pour voir ce qui pourrait être fait en matière de recherche en commun. Si on mettait demain, par exemple, notre procédure de choix des universités d'excellence entre la France et l'Allemagne, si on mettait en commun une partie des fonds qu'on alloue à la recherche compétitive, à la meilleure des recherches possibles, c'est l'ANR en France, l'Agence nationale pour la recherche française, et le DFG allemand, on pourrait retrouver là des solutions de rebond, y compris au service de la croissance durable et du potentiel de croissance des deux pays. Donc il y a des choses à faire, il faut avoir le courage aussi au niveau des ministres, j'allais dire d'aller au-delà de l'indifférence pour l'instant manifestée de la chancelière au président ou du président à la chancelière.
Ouais. Indifférence, peut-être
mais
pas.
Ils sont dans deux couloirs.
Ils
sont dans deux couloirs. Et j'appelle ça de l'indifférence au sens où franchement, ils se parlent très souvent. Et il n'y a aucune animosité, j'ai pas de doute là-dessus. Mais on n'est pas là pour construire des choses. Et d'ailleurs, les Français attendent une chose, c'est que la majorité actuelle explose pour que le SPD sorte et qu'on puisse reparler de défense, par exemple. Ça ne va pas fonctionner comme ça. On n'arrive plus à parler énergie, défense. Donc il faut prendre les projets sur lesquels on est capable de se parler pour aller ensuite vers les projets plus complexes.
Juste pour clore un instant le dossier européen, puis après je vous interrogerai quand même sur ce climat social un
bien
peu
sûr.
Tendu. Laurent Bigorne, est-ce que cette fois-ci la France va comprendre comment fonctionne la Commission européenne? Parce que là je lisais une enquête très intéressante qui montrait que Ursula von der Leyen, donc allemande, mais qu'on disait très francophile, presque plus francophile que germanophile, elle est en train de placer que des Allemands à la Commission européenne. Pendant que cela, nous on est en train de prendre notre temps pour savoir qui sera commissaire ou pas.
Mais qui pouvait penser qui en irait différemment? Bien sûr qu'elle va prendre des Allemands pour une raison simple. C'est que
il y a un Allemand qui est très contesté, qui est lui, pour le coup, a dû partir. Hein.
Qui a dû partir, le secrétaire général de la Commission. Mais prenez les choses telles qu'elles sont. L'actuelle présidente de la Commission a un track record, pardon de ce mauvais français en Allemagne, ministériel, qui n'est pas considérable. Elle a touché à des sujets qui étaient ceux de la famille et de la défense. Sujet important, certes, mais qui ne lui donne pas, par exemple, l'aisance économique dont elle aurait besoin à la tête de la Commission. Elle va s'entourer. Et alors, elle n'a pas nécessairement le réseau européen qui lui permettrait de s'entourer d'une équipe plurinationale. Elle le fera sans doute dans une certaine mesure, parce que c'est une femme intelligente. Mais elle va d'abord et avant tout aller puiser dans les ressources qu'elle connaît le mieux. C'est-à-dire d'abord et avant tout dans des ressources qui sont allemandes. Et ça se manifeste sur la discussion qui vient d'avoir lieu sur le cadre financier. Le cadre financier 2021-2026 qui est absolument essentiel puisque
et les Allemands demandent du reste une diminution, c'est ça qui est
important. C'est la trajectoire, mais c'est là où les Allemands sont, pardon de le dire, insupportable, hein, à courte vue. Il demande effectivement une diminution à mesure que les Britanniques, évidemment, ne vont plus contribuer à raison de 12 milliards par an au budget de l'Union européenne. Mais c'est ce moment précis que nous devrions choisir pour donner une nouvelle impulsion sur l'intelligence artificielle, sur la défense, sur le spatial. Ah oui. Et c'est là où les Allemands sont insupportables et qui peuvent dire à bon droit, mais vous les Français, vous êtes tout autant, puisque vous êtes alliés avec l'Europe de l'Est. C'est bien la première fois pour qu'on ne touche ni aux fonds structurels, ni à la politique agricole qui forme 75% des dépenses. Ouais. Et il y a une espèce de jeu de dupes franco-allemand. Les Français disant on veut dépenser plus, les Allemands disant il n'en est pas question. Et les Allemands nous disant mais au fond, les moyens dont vous avez besoin, il faut cesser de financer pour les récupérer les politiques dites traditionnelles pour financer les nouvelles politiques.
Ouais, donc on voit que même cette nouvelle commission qui devait tourner la page, etc.
Mais non, les problèmes sont rares. C'est pas que des problèmes d'hommes et de femmes. C'est des problèmes structurels entre les deux pays, de vision de l'Union européenne.
À propos de problèmes structurels, je voudrais quand même qu'on dise un mot sur ce qui se passe au sein de la SNCF. Enfin, pas seulement cette espèce de grogne sociale qu'on sent en train de monter et qui inquiète. On en parlait dans le RH avec Raymond Soubi. Laure Bigorne, est-ce que pour vous, c'est qu'un problème de la SNCF et de la RATP qui est en train de rattraper l'ensemble du climat social français?
Je crois qu'il y a un problème d'entreprise publique.
D'accord.
Et il y a un problème d'État actionnaire. C'est ce qu'on avait objectivé avec David Azema. Là aussi, je vous renvoie une note de l'Institut Montaigne qui avait fait beaucoup parler en son temps sur l'État actionnaire. On avait mis à l'époque, en couverture de cette note, un éléphant assis sur une branche. Pour bien montrer que...
La fragilité du
système. On était dans une situation de fragilité. Ouais. Si on a un instant, j'ai regardé précisément, il se trouve que je suis Ardennais, les conditions de l'accident de la semaine dernière. Un accident qui aurait pu être ô combien dramatique, puisque le TER a déraillé. C'était un train qui faisait Sedan jusqu'à la gare Champagne-Ardenne. Vous regardez via Michelin.fr, 1h11 pour faire ce trajet. Vous regardez ensuite sur le site de la SNCF, il faut entre 1h30 et 2h30, et ce trajet n'est quasiment jamais direct. Vous passez par Reims. En quoi un autocar, il y avait 62 personnes dans le train, en quoi un autocar d'abord aurait eu besoin de deux personnes, puisque les syndicats nous disent et nous tympanisent sur le mode il faut deux salariés dans le train pour assurer la sécurité, en quoi un autocar aurait pu avoir besoin de deux personnes et en quoi il n'aurait pas pu faire de façon plus économique pour tout le monde ce trajet. Et donc il y a un moment où l'État actionnaire n'est pas capable de trouver les dispositifs les plus idoines, y compris en tant que régulateur, pour assurer le transport des Français. Il y a un moment où il faut être pragmatique. Et je trouve qu'on ne l'est pas, y compris parce que les entreprises publiques, et moi j'ai beaucoup de respect pour Guillaume Pépi qui a fait énormément à la tête de cette entreprise, là aussi j'entends dire au moment où il part que son bilan ne serait pas bon, c'est pas vrai, il s'est fait beaucoup de choses et il y a des choses qui ne sont pas faites du fait de l'État. Mais je pense qu'on est arrivé au moment où il faut les faire, y compris la réforme des retraites et les régimes spéciaux qu'il faut bousculer.
Voilà, et puis il faut gérer l'entreprise publique et savoir par rapport au privé où est-ce qu'elle se situe en l'occurrence.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne, dans un instant. On parle de business avec Éric Boursouler, il est le directeur général de Solocal. Vous allez voir, il est l'expert en solutions digitales pour les entreprises. Et puis il a publié des chiffres qui en fait sont plutôt bons, on voit ça tout de suite.
BFM Business, midi, leur H. Présenté par Edwige Chevrier.
Il s'est installé, Éric Boursouler, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes directeur général de Solocal. Il y a beaucoup de questions toujours autour de Solocal, hein, ce que vous faites, etc. Mais là, vous avez publié vos chiffres, on va voir qu'ils sont plutôt bons, même s'ils paraissent négatifs. On parle de tout ça dans un instant, mais pour l'instant, place Marie Valogne pour le rappel des titres.
Un énième rebondissement dans le feuilleton du Brexit. La Chambre des communes doit se prononcer aujourd'hui sur le texte négocié la semaine dernière avec les responsables européens et dire si elle réclame ou non plus de temps pour examiner le texte. Le Premier ministre britannique Boris Johnson assure que le Royaume-Uni quittera bien l'Union européenne le 31 octobre. Pourtant, samedi, un amendement du Parlement l'a contraint à demander un nouveau report. 1 million d'euros pour les voyageurs qui ont subi des dommages exceptionnels. C'est la promesse du président de la SNCF, Guillaume Pépi, suite aux perturbations ce week-end. Les voyageurs dont le trajet a été perturbé vont être remboursés à 100% grâce à la création d'un fonds d'indemnisation. Désormais, le trafic a repris quasiment à la normale sur le réseau. Les perturbations restent limitées et concernent les intercités et TER. Dernier jour pour déposer les offres de reprise de Thomas Cook France. Les potentiels repreneurs ont jusqu'à demain pour se déclarer. La société est en redressement judiciaire depuis le 1er octobre. Elle a par ailleurs achevé hier de rapatrier tous ses clients vacanciers. Les salariés de General Electric Belfort approuvent une proposition de la direction pour sauver 307 emplois sur les 792 menacés. Proposition approuvée à une très large majorité. Elle prévoit un plan d'économie annuel de 12 millions d'euros en contrepartie de la réduction du nombre d'emplois supprimés. Jamais le tabac n'aura rapporté autant d'argent à l'État. BFM Business a regardé de plus près les comptes de la Sécurité sociale et le gouvernement va gagner 2 milliards d'euros supplémentaires sur la période 2018-2020 grâce à l'augmentation des prix des paquets des cigarettes. Au total, l'ensemble des recettes fiscales liées au tabac rapportera près de 16 milliards d'euros aux caisses de l'État fin 2020. Mathieu Pigas quitte la banque d'affaires Lazare. L'homme d'affaires et actionnaire dans les médias a remis sa démission hier. Il explique dans une lettre aux salariés vouloir s'engager dans un projet entrepreneurial. La crise des opiacés prend une tournure judiciaire aux États-Unis. Le procès s'ouvre aujourd'hui à Cleveland. Plusieurs géants pharmaceutiques sont sur le banc des prévenus. 2300 plaignants les accusent de n'avoir pas suffisamment alerté sur les dangers de leurs médicaments antidouleurs. Les deux parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord vendredi. Des milliards de dollars sont en jeu. Total accélère dans les carburants marins en Chine. Le groupe signe un accord avec la compagnie publique Zhenyang Energy Group. Leur co-entreprise sera dédiée à l'approvisionnement des bateaux. Et puis, il y a plus de licornes en Chine qu'aux États-Unis. Ces jeunes entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars. 206 ont été répertoriées sur le sol chinois selon une étude chinoise. C'est 3 de plus qu'aux États-Unis. BFM Business, il est 12h34. Le CAC 40 est en hausse de 0,19% à 5647 points. Quant à l'euro-dollar, 1 euro s'échange 1,11 $.
Merci beaucoup Marie Valogne. Tout de suite, c'est Eric Boursouler, le patron de Solocal, qui est avec nous.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Eric Boursouler, directeur général de Solocal. Merci d'être avec nous, Eric Boursouler. Vous me direz, vous avez publié ce matin vos chiffres, hein, qui sont plutôt bons, en l'occurrence, même s'ils sont négatifs, mais il y a une perspective d'avenir en tous les cas. C'est comme ça que c'est interprété par les marchés, parce que votre titre a fortement progressé depuis ce matin. Solocal, en deux mots, aujourd'hui, c'est quoi ?
Solocal propose des services digitaux aux entreprises, toutes les entreprises.
Experts en solutions moyennes, digitales.
Oui. Voilà, solutions digitales. En gros, on aide les entreprises à être plus visibles sur Internet. Être plus visible, c'est avoir potentiellement plus de prospects, donc plus de clients. Donc on est un acteur qui est un catalyseur de croissance potentielle pour les entreprises, encore une fois, petites, moyennes ou grandes. On a aussi des très grandes entreprises qui nous font confiance sur ces sujets.
Voilà, c'est ça. On a l'impression que c'était encore les pages jaunes, parce que c'était... Mais c'est presque feu les pages jaunes, hein, aujourd'hui, on peut le dire. Surtout, c'est... Je crois que c'est là les derniers annuaires papier, c'est terminé à la fin de l'année.
Oui, alors, je vais peut-être donner plus de clarté sur tout ça. Nous, effectivement, notre activité est à 92% digital aujourd'hui. Dans un an, 100% digital, et la vie des annuaires sera très très vite derrière nous.
C'est déjà derrière vous.
Oui, c'est derrière nous, mais on a encore une année à vivre. Pourquoi ? Parce que la consommation digitale augmente significativement. Néanmoins, donc, on propose des services digitaux, la présence digitale, être très visible, des sites internet. On est le premier constructeur de sites internet en Europe, avec une web factory qui est à Angoulême et qui emploie 300 personnes. Et puis, on est aussi très fort dans la publicité digitale. Sur la publicité digitale, on s'appuie sur des plateformes technologiques. En particulier Pageaune, mais pas que Pageaune. On a aussi des partenariats avec des grands acteurs comme Google, Facebook.
Vous les avez tous. Oui.
Voilà, donc je me permets de vous reprendre quand vous dites feu Pageaune. Non, Pageaune va très bien. Pageaune, c'est 19% de croissance en termes d'audience, en termes de trafic sur le dernier trimestre. C'est-à-dire que chaque année, il y a plus de 2 milliards de visites sur Pageaune. Et grâce à ces visites, eh bien, on génère ce qu'on appelle des contacts décisifs, hein, au niveau local. Et ce sont ces contacts qui permettent aux entreprises de trouver des prospects et donc de les convertir en clients.
Et réponse à cela, quand je disais feu Pageaune, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'ancien monde et le nouveau monde.
Il y a le nouveau monde.
Là, pour le coup, ça s'applique vraiment. Hein, parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que éventuellement le grand public ou même ceux qui nous écoutent peuvent avoir en tête. On revient un peu sur vos chiffres qui, disaient, ont été très appréciés. Donc, chiffre d'affaires consolidé, c'était pour le troisième trimestre, 2019, bien sûr. C'était moins 11% à 142 millions. Chiffre d'affaires digital, donc on voit bien l'importance parce que c'est 129 9 millions, c'est moins 7,5%. Mais il y a des signes quand même très encourageants sur les ventes, justement, digitales.
Oui, il y a de nombreux points de satisfaction, en fait, dans ces résultats du troisième trimestre. Et vous avez raison de dire que ce sont des signes avant-coureurs d'une croissance de demain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et c'est la raison pour laquelle on a donné depuis un certain temps maintenant cette information sur l'indicateur de vente. Ce sont les prises de commandes de tous les jours. Et ces prises de commandes, elles se traduisent petit à petit dans un chiffre d'affaires, hein, puisqu'en fait, le chiffre d'affaires se réalise en fonction de la réalisation du service digital. Donc 5% de croissance sur ce troisième trimestre, ça signifie que dans les trimestres à venir, on va retrouver cette croissance au niveau du chiffre d'affaires. Donc des croissances digitales, c'était ce point d'inflexion qu'on attendait et qui est complètement en ligne avec notre plan. Ce qui est important, c'est de regarder où se répercute d'une certaine manière cette croissance. C'est principalement grâce au lancement de nos nouveaux produits. Ce sont des nouveaux produits digitaux. Qui ont été lancés au mois de juillet dernier et qui viennent gonfler, qui viennent alimenter cette croissance. C'est donc structurel. Il n'y a pas un effet d'aubaine là sur le troisième trimestre. Il y a une inflexion, un moment pivot pour l'entreprise, des nouveaux services qui représentent 70% de l'activité et qui petit à petit vont être développés et déployés sur tous les segments de clients. Mais aussi, c'est un formidable potentiel de croissance puisqu'on va vraiment se tourner vers l'acquisition de nouveaux clients dans les mois qui viennent.
Eric, bon, là encore une fois, on va revenir là-dessus, certainement des cas concrets, mais juste, est-ce qu'on peut dire des points d'inflexion ? Est-ce que vous avez touché le point bas ? Maintenant, vous êtes prêt à rebondir ?
C'est clairement un point d'inflexion très fort, et on l'a dit, trimestre après trimestre, l'entreprise va continuer de s'améliorer. On était encore en décroissance au premier semestre, on a parlé d'une croissance sur le deuxième semestre, on est en train de la réaliser. Et trimestre après trimestre, on va s'améliorer, c'est-à-dire davantage de croissance probablement sur le quatrième trimestre, et une croissance des ventes l'année prochaine qui se répercutera probablement en croissance du chiffre d'affaires.
Ça veut dire que les mauvaises nouvelles sont derrière vous maintenant. Et même à la limite, la croissance du chiffre d'affaires négatif, c'est la dernière fois qu'on le voit.
On va continuer de s'améliorer sur les trimestres qui viennent, grâce encore une fois aux produits digitaux que nous annonçons et que nous proposons sur le marché, mais également grâce au changement de business model. Notre modèle économique a complètement été transformé, puisqu'aujourd'hui nos produits sont proposés en mode abonnement avec reconduction automatique, ce qui signifie que nos clients nous font beaucoup plus confiance, puisque 80% des nouveaux produits aujourd'hui, ou plutôt 80% des clients ont migré vers ces nouveaux produits. L'autre point, c'est que un abonnement avec reconduction automatique, ça signifie des revenus récurrents, ce qui signifie plus de visibilité sur le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est aussi un point de satisfaction très très important.
La productivité commerciale.
Et la productivité commerciale, elle a bondi. Elle a bondi de 40%.
De 40%,
ce qui veut dire que aujourd'hui, grâce à ces nouveaux produits, formation de nos équipes commerciales, des nouveaux outils plus interactifs, plus simples, mais également un management qui est capable de mobiliser les équipes, on délivre une productivité, ce qui veut dire une efficacité commerciale comme jamais l'entreprise n'a pu connaître auparavant.
On peut être un peu concret, Rebo Solaire, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez signé différents accords. On peut en prendre la grande distribution, les mousquetaires, parce que c'est assez parlant de ce que vous faites.
Oui, vous avez raison de le dire, puisqu'on connaît souvent sur le local, sur les petites et moyennes entreprises. La réalité, c'est que 20% de notre activité est représentée par les grandes entreprises. Que fait-on pour ces grandes entreprises ? En fait, on les aide à piloter leurs activités digitales au niveau local, mais à partir du national, grâce à des plateformes technologiques qui permettent de, un, manager, gérer des budgets et des investissements locaux, mais également la performance de ces investissements en services digitaux locaux, mais également d'assurer la bonne cohérence de leur marque au niveau local. Et ça, encore une fois, grâce à des plateformes qui sont uniques en France. Oui. Et c'est la raison pour laquelle Intermarché, Renault, Toyota, mais aussi, vous l'avez noté, Eurorépar, sont autant de clients qui nous font confiance parce qu'encore une fois, on va pouvoir les aider sur le local.
En même temps, on voit bien que vous étiez plutôt sur les PME, local au départ. Là, vous allez vers les grandes entreprises, ça veut dire que vous allez oublier, laisser tomber un peu les petites entreprises parce que c'est plus rentable, c'est sûr, de ce que vous faites sur de la grande distribution des grands groupes.
Nous avons le potentiel de croissance sur tous les segments de marché. Donc on va continuer à faire de la croissance sur les toutes petites entreprises, y compris les auto-entrepreneurs, les moyennes entreprises, mais également les grandes entreprises.
Donc c'est boosté sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur tous vos partenaires, Google, etc.
Alors c'est utiliser toutes nos plateformes technologiques, mais aussi nos plateformes médias. Donc on parlait de PageJaune, mais aussi Mappy, Google, Facebook, sont autant de plateformes qui nous permettent de construire des produits. Ces produits sont des produits qui s'appellent Présence, qui s'appellent Booster, Booster Contact, Booster Réseau, et autres produits qui s'appellent Local Impact. impact. Lequel impact? Laissez-moi vous donner un exemple. C'est la possibilité pour nos clients d'avoir plus de trafic au niveau du point de vente. Un exemple, c'est Toyota, pour lequel nous avons mené des campagnes sur 300 concessions et on a augmenté de 5% le trafic, c'est-à-dire beaucoup plus de clients pour Toyota. Grâce à nos plateformes technologiques, mais surtout, quelque chose qui est unique, c'est ce qu'on appelle la data locale. Nous avons une donnée qui nous permet de mieux connaître, de manière évidemment anonymisée, mieux connaître les consommateurs qui ont une forte intention d'achat. Ce que nous produisons, ce sont des contacts décisifs au niveau local.
Et ça, par exemple, c'est une mission comme ça, ça coûte combien, par exemple, pour Toyota, là, si on va booster leur concession?
Ça coûte quelques milliers d'euros par concession. Donc, c'est des coûts extrêmement...
Et je suis un auto-entrepreneur et je veux que vous me boostiez, ça coûte combien?
Ça dépend, encore une fois, de la localité, ça dépend de l'aspect concurrentiel.
Non, mais c'est un ordre de grandeur, quoi. C'est juste intéressant pour ceux qui nous écoutent et ont envie de se lancer dans leur...
Par concession, on a par point de vente, c'est quelques milliers d'euros, mais ça peut monter à quelques dizaines de milliers d'euros en fonction du plan que vous allez souhaiter et de l'ambition que vous souhaitez avoir en termes de nouveaux clients.
Ouais. Transformation digitale totale, ça veut dire qu'il faut que vous changez, et ce que vous avez fait, hein, vous avez quand même eu un plan social extrêmement lourd, vous changez complètement les hommes et les femmes qui travaillent pour ce local.
Vous savez,
complètement digital.
Ouais. Notre ambition, c'est d'abord, c'est un projet industriel, hein, c'est de devenir un grand acteur du digital en France. Français en France, mais aussi avec des perspectives internationales, c'est ce qu'on souhaite. C'est d'être aussi un acteur qui va dynamiser la vie locale. On est aussi un acteur qui peut aider à la revitalisation des territoires. Lutter aussi contre les déserts, dans les villes.
Enfin, oui.
Mais fondamentalement, notre projet, c'est de créer un acteur très fort au niveau du digital.
Est-ce que vous avez gagné, Éric Boursolet? Est-ce que vous considérez aujourd'hui, parce que on vous connaît bien ici, chez Microsoft, vous réussissiez très bien, etc. Vous avez pris les rênes de ce local avec un engagement, je dirais, aussi un intéressement très fort. Donc c'est une logique entrepreneuriale que vous avez faite. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire que vous considérez que vous avez gagné votre pari?
Vous savez, c'est plusieurs étapes. Donc clairement, oui. Si prenez l'analogie du Tour de France, il y a 22 ou 23 étapes. On est en train de passer les étapes. Effectivement, toutes les étapes qu'on passe, eh bien, on est plutôt gagnant. Mais ce qui est important, c'est de continuer étape par étape. D'accord. Et de s'assurer qu'on va. Mais vous l'avez dit et je le reprends. On a un point d'inflexion majeur. On est à une étape pivot pour l'entreprise. On est de retour à la croissance des ventes, qui est avant-coureur de la croissance sur le chiffre d'affaires. Donc oui, et on signe de nouveau. Nombreux clients aujourd'hui, donc la confiance également au niveau du marché est extrêmement bonne et très très prometteuse.
Croissance positive du chiffre d'affaires, ça sera quoi pour 2020?
En tous les cas, c'est la perspective qu'on souhaiterait donner,
2020,
mais on en parlera dans quelques mois.
Fin 2020 ou premier trimestre, deuxième trimestre, quelle échéance?
Ce qui est important pour nous, c'est de continuer à accélérer sur les ventes et ça se traduira par une croissance sur le chiffre d'affaires.
Moi, c'est que vous répondiez à ma question. Est-ce que ça sera, c'est quoi? C'est,
je
veux dire, c'est...
Non, je pense qu'il est encore un peu tôt. Il est encore un peu tôt pour le dire. Ce qui est clair, c'est que le business plan sur lequel on travaille, c'est la croissance des ventes avec un moment donné une traduction au niveau du chiffre d'affaires.
Oui, d'accord, on a compris. Là, maintenant, vous travaillez avec des startups?
On travaille évidemment avec des startups. On travaille avec des startups qui sont à la fois des clients mais des partenaires. On a reconstruit cette entreprise aussi comme une plateforme, comme une reprise de plateforme technologique. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des plateformes, nos plateformes.
Vous travaillez avec Quant? Vous travaillez avec Google, Facebook? Vous travaillez avec Quant?
Et nous avons des accords avec Quant, absolument. Des accords au niveau de la cartographie, mais au niveau également de notre moteur de recherche, de le moteur de recherche. Comme on travaille avec beaucoup d'acteurs, pourquoi? Parce que sur les contenus des entreprises en France, 5 millions d'entreprises en France, les meilleurs contenus avec le maximum de détails, eh bien c'est ce local qui les détient. Et donc on met à disposition ces contenus avec différents acteurs et avec différents modèles en fonction des acteurs.
Vous pensez quoi de la taxe GAFA? D'abord, est-ce que vous allez être touché par cette taxe GAFA? Enfin, pour l'instant, non.
On n'est pas touché par cette taxe parce que d'abord.
Vous avez utilisé vos plateformes, donc tout d'un coup, mon œil s'est allumé. Vous voyez,
j'imagine. Mais nous ne sommes pas touchés par cette taxe, tout simplement parce qu'on n'atteint pas les seuils qui ont été fixés.
Ouais, 250 millions pour l'instant, oui. Mais à terme, vous pourriez être touché.
Alors, écoutez, d'abord, qui sait ce que va devenir cette taxe?
Vous êtes à 142 millions.
La taxe, elle a été introduite, votée au niveau français. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une discussion au niveau international,
et je pense que
c'est le bon niveau de la discussion au niveau international. L'OCDE portera un certain nombre de recommandations par rapport à ça, et on verra.
Elle est injuste ou elle est juste cette taxe à vos yeux? L'ancienne Microsoft là qui a fait. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, nous, on paye nos impôts en France. Je crois qu'il est tout à fait normal de payer ses impôts là où on a une activité. Donc, je crois que ce qui est en train d'être discuté, c'est dans un nouveau monde. On est dans un nouveau monde. On est en train de réinventer complètement toutes les règles. Donc, réinventer ces règles sur la bonne fiscalité pour tout ce qui s'agit du digital, de l'Internet, je crois que c'est une bonne conversation, une bonne discussion. Et on attend beaucoup, effectivement, des décisions de l'OCDE qui s'appliqueront à tous et au niveau mondial.
En fait, pour vous, je reviens à ma question sur 2020, ça va. Les gros enjeux pour vous, ça va être quoi pour ce local?
Premier enjeu, c'est la croissance. C'est donc la croissance, mais c'est la croissance à la fois en termes de développement de notre parc de clients, c'est-à-dire vendre davantage de produits à nos clients. Et c'est bien parti puisque nos nouveaux produits rencontrent un succès au-delà d'ailleurs de ce qu'on attendait. On le voit d'ailleurs avec le taux de migration. Hein. Nos clients vont très très vite vers les nouveaux produits. Le deuxième point, c'est aussi accélérer l'acquisition de nouveaux clients. Je parlais de 5 millions d'entreprises potentielles. La réalité, c'est qu'il y a 2 millions d'entreprises qui sont prêtes à dépenser.
Aujourd'hui, vous en avez
dans le domaine du digital, on en a 400 000. Ouais. Donc, l'acquisition de nouveaux clients est un véritable enjeu pour nous l'année prochaine. Et c'est le développement de nouveaux et le déploiement de nouveaux produits. De nouveaux produits, c'est de nouveaux sites internet. Également, de manière omnicanale, sur notre site solocal.com, on pourra acheter et développer son site internet soi-même. Donc, c'est un exemple. D'autres fonctionnalités vont être ajoutées, comme la gestion des clients. Ce qui est difficile pour les PME aujourd'hui, c'est non seulement de développer ses clients, d'acquérir de nouveaux clients, mais c'est aussi gérer ses clients. On va leur apporter des moyens, des fonctionnalités qui permettront de le faire.
Si je vous posais la question aussi, c'est de dire qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises en France, les chiffres de la BPI mais d'autres montrent n'ont pas encore complètement intégré, même si ça va mieux, cette transformation digitale, et ne sont pas du tout au niveau, hein, je dirais, de ces transformations, de ces enjeux en tous les cas. Pour vous, c'est un défi, mais c'est en même temps un frein, en l'occurrence.
C'est
vous arrivez dans une boîte et vous dites, je voudrais développer votre site internet, le booster et tout, et qui vous dit, mais c'est quoi Google?
C'est à la fois une opportunité pour ce local, mais une opportunité pour nos clients de se digitaliser, pour ce local d'accélérer sa croissance. Donc effectivement, le marché français dans le domaine du numérique, mais c'est pas vrai uniquement des petites entreprises, c'est vrai de l'ensemble du marché, a une opportunité, c'est d'accélérer considérablement sa digitalisation. C'est une opportunité sans aucun doute pour ce local, et c'est ce qui nous permet d'être confiants grâce à des nouveaux produits, grâce aussi aux plateformes technologiques qu'on développe. Eh bien, c'est de capturer cette opportunité pour doper notre croissance.
Mais en même temps, vous avez un frein, c'est-à-dire que là, vous restez au niveau français, forcément. Est-ce que vous espérez qu'un jour, on aura peut-être une réglementation européenne? C'est un des grands défis, en tous les cas, réglementation européenne au niveau du net et d'Internet.
Écoutez, avant de parler de réglementation, moi, je vois le marché européen comme une opportunité également pour ce local.
Oui, bien sûr, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des freins, parce qu'il y a des barrières.
Écoutez, je vois beaucoup plus d'opportunités que de freins. Encore une fois, toutes les technologies dont on dispose, qu'on a développées, tous les produits qu'on met en œuvre aujourd'hui sont des produits qu'on peut commercialiser au niveau international. On s'est fixé un agenda et un calendrier qui est assez simple et séquentiel pour le coup. C'est de réussir notre pari en France. On est en train de le réussir. Les troisième trimestre sont plus qu'encourageants. On va les confirmer sur le quatrième trimestre et l'année prochaine. Et c'est sûr que dans l'année 2020, on se posera des questions de notre internationalisation, soit de manière organique, soit par croissance externe. En tous les cas, c'est la façon dont on voit les choses dans le temps.
Donc, pour vous, cette transformation digitale, elle est très, très engagée. Enfin, je veux dire, elle est très dynamique.
Vous parlez du marché ou vous parlez de ce local?
Oui. Bien sûr. Du marché en général, justement. Et puis avec ce local, vous avez déjà expliqué ce que vous voulez faire.
La croissance des marchés, c'est aussi une opportunité pour ce local et pour le marché. La croissance du marché de la publicité digitale, c'est plus 12% en France aujourd'hui. La croissance des sites internet, c'est plus 20%. La croissance de la présence digitale, c'est également plus 5 à 10%. Ce sont des marchés extrêmement dynamiques et qui peuvent encore se développer. En revanche, la France a ce rattrapage. On parle souvent du rattrapage dans le domaine numérique, c'est vrai. Uniquement 10% des entreprises, des petites entreprises, sont aujourd'hui équipées de sites e-commerce, de sites marchands. Alors que c'est 2 ou 3 fois plus dans les pays anglo-saxons, dans les pays du nord de l'Europe. Donc vous voyez encore une fois l'opportunité de la digitalisation pour la France qui d'une manière ou d'une autre, se traduirait par une croissance du PIB. Et c'est vrai pour tous les acteurs du numérique, comme ce local.
Oui. Eric Boustolaire, en même temps, on voit bien que on voit la bataille féroce entre Publicis, Accenture, enfin, c'est des batailles de géants que se livrent actuellement ces entreprises sur le net. Ce local reste petit, malgré vos efforts, ou grâce à vos efforts, ça se développe, etc. On a compris, mais vous restez petit. Est-ce que vous pourrez rester indépendant? Ou votre idée, c'est de transformer complètement ce local, et puis après, bah peut-être, je ne sais pas, d'aller voir Publicis, d'aller voir Amazon, d'aller voir qui vous voulez, quoi.
Pour nos auditeurs, juste pour resituer les choses, le chiffre d'affaires, hein, un peu ou prou, de ce local, c'est 600 millions sur une, sur une base annuelle. C'est pas très loin, c'est le troisième acteur du marketing digital en France. C'est le troisième acteur.
Bah oui, derrière, si vous faites 142 millions et vous
derrière
faites le troisième
trimestre. Derrière Google et Facebook. Oui. Hein, donc on est le troisième acteur. Donc on est un acteur qui est un acteur de poids sur le marché français. Comme je l'ai dit, on va continuer de croître et on souhaite se développer au niveau international. Vous me parliez d'acteurs comme Publicis, on aurait pu également évoquer Havas, Mediacom et autres acteurs. Tous ces acteurs sont des partenaires de ce local. Pourquoi ? Parce que ces acteurs travaillent principalement avec les grandes entreprises dans leur stratégie digitale au niveau mondial.
Mais on voit leur stratégie de consolidation.
Nous sommes l'acteur local. Nous sommes l'acteur local. On va apporter une valeur au niveau local. Il n'y a pas d'acteurs. Tous les acteurs que vous avez cités s'occupent, vraiment prennent leur place et ont une proposition de valeur dans le domaine national ou
global. Vous voyez bien, vous entendez, vous connaissez ça mieux que moi. On parle d'un rapprochement éventuel entre Publicis et Havas en ce moment. Je veux dire, on a l'impression d'être dans un grand maelstrom de fusion-acquisition. Donc ce local, est-ce que ça trouve sa place ou ça doit rester indépendant.
Écoutez, aujourd'hui, on n'a pas de discussion de cette nature, on n'a pas de plan non plus dans cette direction, mais on sera toujours ouvert à un moment donné pour accélérer notre croissance à toute option, et je suis sûr que le moment venu, on regardera ça de
très près. Ah ben voilà, oui, donc vous allez dans mon sens, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même...
Ce que je vous dis, c'est que pour le moment, il n'y a pas de plan dans ce domaine.
Oui, mais il y a un mouvement de consolidation très important.
On croit beaucoup, beaucoup au partenariat avec les entreprises qu'on a cité, partenariat également avec les grands acteurs de l'Internet. Donc on est plutôt un catalyseur de croissance pour tous ces acteurs. Aujourd'hui, on n'a pas de discussion qui soit des discussions d'ordre capitalistique.
C'est votre partenaire Google là, qui refuse de payer les entreprises de presse alors que la loi française lui impose de le faire. Elle s'assoit dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, elle s'assoit dessus, comme vous voulez.
Vous savez, je ne suis pas un grand expert dans le domaine. Là, vous m'emmenez sur des terrains qui sont plus dangereux pour moi. Mais d'abord, ma première réflexion, ce qui est important, c'est, je pense, aux internautes, aux mobinautes, c'est d'avoir la meilleure information et que cette information, elle ait les meilleurs contenus, hein, et en particulier, surtout dans un monde de fake news. Après, c'est tous les acteurs qui participent, qui contribuent à la création de ce contenu de qualité, doivent y trouver une juste rémunération. Donc on doit très certainement tous trouver le bon équilibre du partage de la valeur. Ouais. Donc moi, j'ai écouté, j'ai lu, et donc j'espère que cet équilibre va être trouvé entre les différents acteurs.
Merci beaucoup. Éric Brousselaire, qui ne ferme pas la porte à rien du tout, j'ai envie de dire, hein, mais en même temps, pour qui le point d'inflexion, ça y est, a été trouvé pour ce local. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de l'Orage. On se retrouve demain matin, 8h15, avec Martin Vial, le directeur général de l'APE, l'Agence des participations de l'État. Vous pouvez imaginer beaucoup de questions. Sinon, rendez-vous l'heure H, 12h, 13h. Bonne journée.